L'expression secular stagnation, vous le savez, vient d'un discours présidentiel qui a été fait présidentiel puisqu'il présidait l'association d'économie, l'American Economic Association, l'association des économistes américains. Hansen a utilisé cette expression dans son intervention pour décrire les trappes à basse croissance. Et en fait, dans toute son intervention et dans tout l'article qui a été publié dans l'American Economic Review qui est issu de cette intervention, il n'y a qu'un endroit où il emploie cette locution, cette expression « secular stagnation ». C'est dans cette phrase. Et dans cette phrase, vous voyez, ce qui est dit, en quelque sorte, c'est que la secular stagnation est une sorte de trappe. Et dès qu'il y a quelques signes de croissance qui commencent à se manifester, eh bien, des forces diverses et variées nous ramènent à la secular stagnation, à une croissance très, 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 très faible. Et les raisons de cette croissance faible, pour lui, étaient à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Du côté de l'offre, entre autres, une très faible évolution démographique. Et du côté de la demande, des difficultés à la stimuler pour les pouvoirs publics. On sait que c'est important à signaler. On sait que l'histoire a donné tort à Hansen, puisque la période qui a suivi, la période de guerre et la période d'après-guerre, ont été des périodes de très forte croissance aux États-Unis, qui étaient concernés par ce discours de Hansen. Alors, sur ce graphique-là, ce qui est représenté, c'est une décomposition comptable de la croissance. Le petit point noir, le losange noir, c'est le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut dans différentes économies, USA, zone euro, Royaume-Uni, Japon, sur différentes sous-périodes. Et la décomposition comptable, qui est basée sur une méthodologie complètement standard ici, basée sur une coupe de glace, eh bien, nous permet de voir les facteurs comptables, en quelque sorte, de la croissance du produit intérieur brut dans ces différents pays et zones. Et ce que l'on voit, c'est que depuis 1950, la croissance est en baisse. C'est-à-dire le petit losange noir, vous voyez, d'une sous-période à une autre sous-période, baisse régulièrement dans chacune de ces quatre zones, avec un tout petit rebond à la hausse sur une décennie très particulière qui va de la moitié des années 90 à la moitié des années 2000, la décennie dans laquelle les technologies de l'information et de la communication ont connu une très forte diffusion aux États-Unis. Dans les autres zones, on observe sans ce rebond, sauf au Royaume-Uni, on observe la même chose, une baisse du taux de croissance sur les différentes sous-périodes depuis les années 50. Donc vous voyez, cette préoccupation d'un ralentissement du PIB, d'une baisse de la croissance, est quelque chose qui s'inscrit sur une très longue période. Alors, cette décomposition comptable, maintenant, nous permet de qualifier comptablement, comptablement les origines, le facteur qui est à l'origine de cette baisse de la croissance. Et le facteur principal qui est à l'origine de cette baisse de la croissance, c'est la baisse du taux de croissance de la productivité, ici représentée en vert. En vert, c'est la productivité horaire du travail. Et vous voyez que la croissance de la productivité horaire du travail a une contribution qui baisse continuellement dans le temps d'une sous-période à une autre sous-période. Et à l'intérieur de la productivité horaire du travail est décomposé ici les effets de la TFP, la productivité globale des facteurs, et puis de l'intensité capitalistique, c'est-à-dire de la quantité de volume de capital par unité de travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la productivité du travail, ce qui explique la baisse, c'est essentiellement la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire un solde, quelque chose qu'on n'explique pas directement, mais qui est le solde de cette décomposition comptable. Donc, même chose dans tous les pays, dans toutes les grandes zones ici considérées, avec ce petit hoquet de croissance dans la décennie 95-2005, mais sinon baisse de la croissance partout, et cette baisse de la croissance s'explique par celle de la productivité globale des facteurs essentiellement. Alors on observe la même chose, je ne vais pas le détailler, dans les grands pays de la zone euro, qui sont ici représentées. La zone euro, donc, c'est la partie gauche, ça répète ce qui a été montré précédemment. Et puis les quatre grands pays de la zone euro, que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, connaissent exactement ce même phénomène de baisse de la croissance depuis les années 50. Et cette baisse de la croissance s'expliquant dans ces quatre grands pays par la baisse de la croissance, de la productivité globale des facteurs. Alors du coup, ça vaut la peine de regarder de façon un petit peu plus précise les évolutions de la productivité globale des facteurs. C'est ce qui est fait pour nos quatre zones, États-Unis en noir, zone euro en rouge, Royaume-Uni en bleu et Japon en vert. C'est le taux de croissance de la productivité globale des facteurs depuis 1890 jusqu'en 2016, lissé avec un filtre dit d'Audric Prescott. Alors ce qu'on voit pour commenter la courbe noire qui correspond aux États-Unis, c'est qu'au tout début de période, on a une baisse de la croissance de la productivité globale des facteurs. On voit un épuisement, en quelque sorte, de ce qui a été la première révolution industrielle. Et puis, une grande vague, brièvement interrompue pendant la grande dépression des années 30, une grande vague de croissance de la productivité globale des facteurs qui culmine pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une période de très forte croissance de la productivité globale des facteurs aux États-Unis. Et puis une baisse, ensuite, quasi continue de la productivité globale des facteurs jusque dans les années 90. Cette grande vague correspond de croissance de la productivité globale des facteurs correspond à la deuxième révolution industrielle associée à l'utilisation de l'électricité, à la diffusion du moteur à explosion, à l'extension de l'industrie chimique, etc. Et puis, vous voyez une petite vaguelette qui correspond à la troisième révolution industrielle, à la fin de la période. Cette vaguelette, c'est bien sûr l'extension, l'utilisation, la diffusion des technologies de l'information et de la communication. Et puis, tout en fin de période, des taux de croissance de la productivité globale des facteurs qui sont des minima historiques. Et ces minima historiques, enfin dans les trois autres zones, que sont ici la zone euro, le Royaume-Uni ou le Japon, on voit qu'on est aussi aujourd'hui à des minima historiques. Les périodes antérieures sont un tout petit peu différentes. Il y a un décalage, un délai dans le bénéfice de la deuxième révolution industrielle. Mais ce sur quoi je veux surtout attirer l'attention ici, c'est le fait que aujourd'hui, la croissance de la productivité globale des facteurs connaît des minima historiques, ce qui évidemment motive la question de secular stagnation et de pour combien de temps, en quelque sorte, on en a. À partir de ce constat, ce que nous avons fait avec plusieurs co-auteurs, c'est de faire des scénarios de croissance sur le futur très très contrastés sur l'ensemble du XXIe siècle pour avoir l'intégralité de cycles cycles technologiques très très longs. À gauche, sur la partie gauche, eh bien, on a ce qui se passerait si on vivait durablement en période de secular stagnation. Et puis à droite, on a ce qui se passerait si on bénéficiait d'un rebond, en quelque sorte, de croissance, d'un rebond de la croissance de la productivité globale des facteurs, avec des effets de cette troisième révolution industrielle liée à l'économie numérique, hein, qui serait une deuxième vague, en quelque sorte, de croissance de la productivité globale des facteurs, une deuxième vague d'accélération et qui nous permettrait de bénéficier de gains de productivité comparables à ceux dont on a bénéficié pour la deuxième révolution industrielle aux États-Unis. Et vous voyez que l'écart est colossal, l'écart est absolument ahurissant. Dans un cas, la croissance du PIB ne serait que d'en moyenne 1,5% par an aux États-Unis, de maintenant jusqu'à la fin du XXIe siècle, et dans l'autre cas, on serait à environ 3,5%. Pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB par habitant, dans un cas, serait multiplié par 2 d'ici la fin du XXIe siècle. Dans l'autre cas, il serait multiplié par 8. Vous voyez, c'est une différence évidemment considérable pour faire face à tous les défis qui sont devant nous, celui du désendettement, celui du vieillissement de la population, celui évidemment de la soutenabilité de la croissance. À droite, dans l'hypothèse d'un, retrouver une période de croissance forte, eh bien, on peut affronter ces défis sans crainte. À gauche, évidemment, ça sera beaucoup plus difficile, ça serait beaucoup plus difficile, et on pourrait craindre des risques sur la stabilité sociale et économique des pays développés si on se situait dans ce scénario de secular stagnation.